journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Premier anniversaire de la marche du retour à Gaza, tension extrême de part et d'autre du mur qui fait frontière avec Israël et tentative de médiation égyptienne. Reportage d'Étienne Menin. De l'aide humanitaire pour le Venezuela après des semaines de coupures de courant, aucune relâche en revanche, aucune éclaircie sur le plan politique. Avec aujourd'hui les deux rivaux, Nicolas Maduro et Juan Guaido, qui ont mobilisé leurs partisans pour des rassemblements dans les principales villes du pays. Nous ferons le point avec Nadine Epstein. Une militante écologiste pro-européenne et anti-oligarque favorite du second tour de la présidentielle en Slovaquie. Retour sur la campagne de Susana Chaputova avec à Bratislava Alexis Rosenzweig. Une juge de Brasilia retoque le projet de Jair Bolsonaro de commémorer demain le 55e anniversaire du coup d'État de 1964. Projet qualifié d'incompatible avec la restauration démocratique scellée par la Constitution de 1988. Explication de l'historienne Monica Raiz. Enfin, la Bulle Écho, signée ce samedi Catherine Pétillon, s'intéresse à la bataille économique et géopolitique autour de la 5G, la dernière génération de la téléphonie mobile. À Gaza, depuis le 30 mars 2018, chaque semaine, les blessures de l'histoire se marient aux douleurs du présent, avec de part et d'autre de la frontière avec Israël, bien des instrumentalisations politiques de la part du Hamas, comme du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La marche du retour est pour le Hamas revenir aux sources d'une humiliation, la création de l'État d'Israël en 1948, au risque de faire d'une révolte de Gazaouis exsangue une mobilisation armée. Et pour le gouvernement israélien, cette marche n'est autre qu'un un terrain de confrontation avec son meilleur ennemi, Étienne Monin, à Gaza.
En plus d'être un mouvement de protestation contre les conditions de vie de plus en plus dégradées dans la bande de Gaza, la marche d'aujourd'hui sera un indicateur des discussions indirectes amorcées cette semaine entre les Israéliens et le Hamas. En un an, la marche du retour n'a pas offert de véritable avancée politique. Le Hamas a reçu une aide humanitaire limitée grâce à l'intervention du Qatar, mais les versements d'argent ont été stoppés. L'impatience grandit, y compris dans la rue, et le mouvement islamiste fait pression à nouveau pour obtenir des avancées au moins économiques. Bassem Naïm est en charge des relations internationales pour le Hamas. On veut lever le siège israélien, mais en même temps, on discute sur des étapes plus graduelles qui pourraient soulager les tensions dans Gaza en changeant la réalité économique et humanitaire dans l'enclave. On parle d'électricité, d'exportation, d'importation, on parle de financement d'emplois et de plus d'infrastructures. Dans ce contexte, la marche du retour est utilisée comme un levier. Ces dernières semaines, l'intensité des actions a été ravivée, avec notamment l'envoi à nouveau de cerfs-volants enflammés en Israël. Aujourd'hui, le Hamas appelle au calme, mais les services de secours ont sensiblement augmenté leurs capacités.
Et un Palestinien de 20 ans a été tué par des tirs israéliens alors qu'il prenait part à une manifestation la nuit dernière à plus de 100 mètres de la barrière. 13 policiers afghans tués ces dernières 24 heures dans l'Est, à Razni, ville brièvement contrôlée par les talibans l'année dernière, comme dans la province de Zaboul, au sud du pays. 3 postes de contrôle ont été pris pour cible. Au Venezuela, les deux présidents ont une fois de plus l'intention de galvaniser leurs troupes ce samedi avec des cortèges convoqués dans les principales villes du pays. Rien ne change, opposition frontale, avec une brèche. Toutefois, et elle n'est pas négligeable, le pays, en proie à de massives coupures de courant depuis des semaines, voit venir en deux temps de l'aide humanitaire. Le président sortant, Nicolas Maduro, Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Pourrait accepter une distribution du CICR et un avion, Nadine, en provenance de Chine, est arrivé hier à Caracas.
Et officiellement, c'est dans le cadre d'accords de coopération bilatérale entre Caracas et Pékin qu'hier, la Chine a apporté au Venezuela 65 tonnes de médicaments et de matériel médical. La Chine fait partie des alliés du pouvoir chaviste avec la Russie, qui a, elle, envoyé 2 avions militaires transportant des troupes et du matériel à Caracas, là aussi, selon des accords bilatéraux de coopération technico-militaire. L'aide chinoise a été bien accueillie par le président Nicolas Maduro, qui impute à Washington et à ses sanctions financières les pénuries dans son pays. Nicolas Maduro refuse toutefois d'admettre la crise humanitaire qui a déjà poussé à l'exil 3 millions de personnes et plonge des millions d'autres dans l'indigence. De multiples facteurs aggravent la situation économique, crise économique comme tous les pays rentiers du pétrole, protestations sociales, détérioration des services de base, flux de migration, niveau élevé de violence et crise politique, autant d'éléments qui font que le nombre de Vénézuéliens dans le besoin augmente chaque jour. La Croix-Rouge internationale, présente au Venezuela depuis 1966, a depuis un an renforcé ses actions, notamment dans les domaines de la santé et de l'assainissement. Le CICR a doublé son budget, qui est passé de 8 à 17 millions d'euros. L'organisation onusienne a fourni à la Croix-Rouge vénézuélienne un programme d'intervention d'urgence pour aider 1800 malades. Aujourd'hui, le Venezuela connaît de plus en plus une énorme coupure d'électricité qui touche Caracas et d'autres villes comme Valencia ou San Cristobal, et les conséquences sont dures pour la population. Plus de transport public, pas de téléphone, pas d'internet, et les administrations et les magasins fermés. Le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Francesco Rocca, espère pouvoir aider 650 000 personnes en envoyant d'ici 15 jours des antibiotiques, des kits chirurgicaux, une assistance matérielle pour les hôpitaux comme des groupes électrogènes.
Merci à vous, Nadine Epstein. Le président brésilien, rappelé à l'ordre par une magistrate de Brasilia, Jair Bolsonaro, avait l'intention de célébrer demain le 55e anniversaire du coup d'État militaire de 1964, initiative incompatible avec la Constitution de 1988, selon la juge Ivani Silva da Luz. L'opposition étrille le président d'extrême droite, qualifié de révisionniste, Jair Bolsonaro, qui est revenu in extremis sur ses propos en jouant sur les mots. Il s'agissait de se remémorer et non pas de commémorer. Mathilde Mélin a sollicité Monica Raizaj-Poun, historienne spécialiste du Brésil. Ce Brésil, en délicatesse avec sa mémoire, ce qui laisse tout loisir à l'extrême droite de réécrire l'histoire.
Contrairement à des pays comme l'Argentine ou le Chili, qui ont traité de leur mémoire de façon plus courageuse, au Brésil, la loi de l'amnistie, qui fait toujours blocage pour le traitement de la mémoire, a amnistié en même temps les torturés et le tortureur. Le travail de mémoire ne s'est pas fait. Et du coup, on peut réécrire l'histoire comme ce gouvernement essaye de le faire, en disant il n'y a pas eu de coup militaire, il n'y a pas eu de dictature. Ils sont en train de déchirer les pages de l'histoire et en réécrire une autre. Le Brésil est un pays où il y a des déficits de scolarisation très importants. Il y a une large méconnaissance, des énormes pans de la société ne savent pas trop ce qui s'est passé, c'est resté en silence. Il y a déjà eu un texte qui est parti dans les casernes pour parler de la mémoire du jour du coup militaire, en les traitant de révolution de 64. C'est vrai qu'il peut jouer sur les réseaux sociaux, sur l'ignorance, sur ce manque de mémoire collective qui est une triste réalité brésilienne. La constitution de 88, c'est la constitution de la redémocratisation qui rétablit tous les droits politiques, tous les droits de la justice, qui remet en fait les libertés de droit, les libertés individuelles. Donc c'est évident, c'était en une période historique où l'état de droit a été mis entre parenthèses, où les élections étaient truquées, où les droits de la presse étaient censurés. C'est aller contre la démocratie qui a été restaurée par cette constitution.
Monica Raizaj-Poun, historienne spécialiste du Brésil. Second tour de l'élection présidentielle en Slovaquie ce samedi, et face à l'actuel vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, une novice en politique qui semble très bien partie pour devenir la première femme présidente de ce pays d'Europe centrale. L'avocate Susana Čaputová a nettement remporté le premier tour il y a 2 semaines en égrenant sans détour exactions et méfaits de l'oligarchie. Sa campagne progressiste et anticorruption a séduit, semblerait-il, beaucoup de Slovaques. C'est une correspondance de Bratislava d'Alexis Rosenzweig.
C'est le meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne qui a poussé Zuzana Čaputová à se lancer en politique il y a un an. Jusque-là, elle était avocate et s'était surtout fait connaître pour son combat mené contre une décharge illégale près de son domicile, un combat remporté qui lui a valu le prestigieux prix Goldman aux États-Unis en 2016. À 45 ans, la dame aux longs cheveux clairs et à la voix douce a réussi en quelques semaines à se présenter comme la candidate du bien contre le mal. Une certaine dose de manichéisme qui a séduit. dans une Slovaquie gangrénée par des pratiques mafieuses et la mise en cause de personnalités proches du pouvoir, notamment proches du parti qui soutient son adversaire dans ce deuxième tour. Tolérante envers les minorités sexuelles, bienveillante aussi envers les minorités ethniques du pays, cette mère de famille divorcée a surpris des adversaires politiques souvent enclins à choyer l'électorat conservateur. C'est un lourd péché que de soutenir cette candidate, a déclaré pendant la campagne l'un des archevêques catholiques de l'influent clergé slovaque. Zuzana Čaputová a quand même pu compter sur le soutien du président sortant. Pour certains analystes, elle pourrait, en cas de victoire, devenir un exemple à suivre pour l'opposition dans les pays voisins que sont la Pologne et la Hongrie.
Tout est encore possible et le spleen en partage au lendemain du troisième rejet par les communes de l'accord du Brexit tel que négocié par Theresa May avec Bruxelles. Les partis politiques britanniques semblent être tétanisés. Une date rougeoie toutefois sur les calendriers. Hier, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire le 10 avril. D'ici là, bonjour Marina Daras.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Marina, vous avez lu pour nous la presse.
Oui, et ce matin, la une des journaux sont toutes dominées par ce que le Daily Mail décrit comme la trahison du Brexit. Ce dernier rejet de l'accord de Theresa May a laissé le pays dans une paralysie politique, souligne l'éditorialiste du journal, qui accuse le dirigeant travailliste Jeremy Corbyn d'avoir conspiré avec des eurosceptiques purs et durs pour bloquer cet accord et plonger la Grande-Bretagne dans le chaos. L'autre tabloïd, The Sun, s'attaque aux députés qui ont voté contre l'accord en sous-titrant « Honte à eux tous ». La une s'en prend aux travaillistes ainsi qu'aux députés conservateurs rebelles, aux Brexiteers et aux membres du DUP, les accusant d'avoir trahi les 17,4 millions de personnes qui ont voté pour quitter l'UE. Du côté des quotidiens plus centristes, on reste sur l'impasse du Brexit avec The Eye qui titre Brexit mission inachevée et le Guardian qui pense que Theresa May donnera aux députés un dernier vote sur son accord avant de déclencher des élections générales si le Parlement ne parvient pas à s'entendre sur la marche à suivre. En gros, pour résumer, on peut reprendre la une du Télégraphe qui parle du fiasco du Brexit.
Merci à vous, Marina Daras, en direct de Londres. Dans l'actualité française, des défilés de gilets jaunes ce matin dans le Cannes, notamment à Rouen, Nice, Toulouse ou encore Saint-Étienne, et en ce 20e samedi de mobilisation des villes comme Paris, Bordeaux et Tours, qui ont bouclé et interdit à la manifestation plusieurs quartiers du centre-ville.
La bulle économique. Catherine Pétillon.
Et la Bulle Écho qui s'intéresse cette semaine à la bataille économique et géopolitique autour de la 5G.
Elle ne sera pas là avant 2020 au moins, mais la 5G fait déjà l'objet d'âpres batailles. Ce qui est aujourd'hui en jeu, ce sont les conditions de déploiement de cette nouvelle technologie de communication. Toute avancée de ce type donne lieu à des guerres commerciales. Celle-ci est d'autant plus aiguë que le saut est important. Rappelons d'abord de quoi il s'agit. Nous utilisons aujourd'hui la 4G pour nos terminaux mobiles, si tant est soit dit en passant que l'on bénéficie de la couverture, c'est loin d'être le cas partout. En tout cas, le grand public s'en sert pour ses communications, le téléchargement de vidéos ou encore l'utilisation d'applications sur son téléphone. La 5G, elle, doit offrir plus de rapidité et une énorme capacité afin d'absorber un fort trafic de données. Conséquence, elle aura des applications bien plus importantes et variées. Surtout, elle servira aux objets connectés. Ses retombées industrielles sont donc potentiellement gigantesques. On la trouvera dans des secteurs comme l'énergie, la chirurgie à distance ou encore la voiture autonome, mais aussi dans des installations militaires, les hôpitaux, les ports, les usines, etc. Autant dire que son rôle sera structurant dans l'économie et hautement stratégique. On comprend bien que cela pose aussi de nombreuses questions de sécurité. Les ingrédients sont donc réunis pour une compétition afin d'être l'équipementier qui dominera le marché. Les questions de sécurité et de souveraineté des données ont renforcé le tour géopolitique donné à cette bataille économique. L'attention est focalisée sur un acteur en particulier, Huawei. L'entreprise chinoise est le deuxième vendeur de smartphones au monde et surtout le premier fournisseur d'équipements télécom. Elle est au cœur d'une polémique internationale depuis que les États-Unis l'accusent d'espionnage, notamment d'installer des portes dérobées numériques dans ses équipements, ce qu'on appelle des backdoors, pour dire vite, des ouvertures permettant d'avoir accès aux communications passées dans l'ensemble des pays qui utilisent ces services. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Huawei a une position cruciale sur le marché et une activité particulièrement offensive dans le jeu d'influence pour le dominer, démarche somme toute classique pour toute grande entreprise qui cherche à asseoir ses positions. Reste que son patron, ancien ingénieur de l'armée chinoise, et les pratiques passées de l'entreprise sont régulièrement mis sur la liste des indices à charge. Huawei ne cesse de se défendre de toute pratique d'espionnage. Les États-Unis, eux, brandissent la législation chinoise. Depuis 2017, elle oblige les entreprises du pays à collaborer avec les autorités dans le cadre de l'effort national pour le renseignement. Tout cela alimente les soupçons, mais à ce jour, il n'existe aucune preuve tangible de cette accusation américaine. En somme, l'argument de la sécurité, s'il est réel, habille une bataille économique et politique. D'autant plus que la Chine maîtrise l'équipement, mais aussi tout l'écosystème qui va avec. Autrement dit, les entreprises dont les services reposent sur la 5G, Alibaba, Baidu et bien d'autres, sont de sérieux concurrents aux géants américains. Dès 2012, les États-Unis ont exclu Huawei de leur appel d'offres, suivi ensuite par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Surtout, l'été dernier, les Américains ont lancé une offensive diplomatique, mettant la pression sur leurs alliés pour qu'ils fassent de même. Prise en étau entre ces deux camps, l'Europe est divisée, partagée entre la nécessité de rassurer un allié et celle de ne pas froisser un partenaire commercial crucial. L'Allemagne, où l'appel d'offres pour la 5G s'achève aujourd'hui, avait été directement mise en garde par les États-Unis. Elle n'a finalement pas exclu Huawei, malgré les menaces de Washington de revoir la coopération sécuritaire transatlantique. Cette semaine, la Commission européenne a refusé de céder à ces pressions américaines. Autrement dit, elle ne propose pas de bannir les groupes chinois des appels d'offres. Sans jamais citer Huawei, la Commission invite les États à évaluer d'ici fin juin les risques liés aux infrastructures 5G au niveau national. En France, après le rejet d'un amendement à la loi Pacte, ces questions font l'objet d'une proposition de loi déposée par des députés En Marche. Les questions de souveraineté sur les données et la domination de quelques acteurs sont cruciales et la 5G interroge une fois encore la capacité de réaction politique nationale et européenne face à ces enjeux.
Merci à vous Catherine Pétillon. Du soleil pour tout le monde dans l'après-midi, température comprise entre 13 et 20 degrés. Édition préparée avec M. Le Chili, la technique Jean-Frédéric.